l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 6. Les opprimés domestiques. Deuxième partie. Le statut paternel au sein de la famille était ainsi décrit dans The Spectator, un journal aussi influent en Amérique qu'en Angleterre.
Rien ne peut mieux satisfaire un homme que le pouvoir ou la domination, et, en tant que père de famille, je passe mon temps à donner des ordres, à distribuer des tâches, à entendre les différentes parties, à administrer la justice et à distribuer des récompenses et des punitions. En bref, monsieur, je veille sur ma famille en une sorte de souveraineté patriarcale dont je suis à la fois le roi et le grand prêtre.
Il est dès lors peu surprenant que la très puritaine Nouvelle-Angleterre ait maintenu cette suggestion de la femme. L'un des plus célèbres manuels de savoir-vivre, publié à Londres, connut une large diffusion dans les colonies américaines au XVIIIe siècle. « Advice to a daughter » s'adressait ainsi aux jeunes filles. Vous devez d'abord accepter ce principe fondamental et général que les sexes ne sont pas égaux et que, pour une meilleure économie des affaires du monde, les hommes, destinés à édicter les lois, ont été dotés de raisons en plus grande part. En conséquence, votre sexe est mieux à même de montrer cette obéissance nécessaire à l'accomplissement des devoirs qui semblent lui être plus spécifiquement assignés. Votre sexe a besoin de notre raison pour sa conduite et de notre force pour sa protection. Le nôtre a besoin de votre gentillesse pour nous charmer et nous divertir. Il est tout à fait remarquable que, malgré cette pesante éducation, les femmes se soient tout de même rebellées. Les femmes révoltées ont toujours dû faire face à des obstacles particuliers. Vivant perpétuellement sous le regard de leur maître et isolées de leurs semblables, elles ne peuvent, en outre, profiter de la camaraderie quotidienne qui réconfortait tant les rebelles des autres groupes opprimés.
Il était rare que les femmes participent directement aux affaires publiques. Cependant, sur les frontières du Sud et de l'Ouest, les conditions étaient telles que cela pouvait occasionnellement arriver. Julia Sprill a découvert, dans les plus anciennes archives de Géorgie, l'histoire d'une certaine Mary Musgrove Matthews, fille d'une mère indienne et d'un père anglais, qui connaissait la langue Creek et devint conseillère aux affaires indiennes du gouverneur de Géorgie, James Oglethorpe. Sprill révèle que, à mesure que les communautés s'enracinaient plus sûrement, les femmes se voyaient écartées de la vie publique et semblaient se comporter de manière plus timorée. Pendant la Révolution, toujours selon Sprill, les nécessités de la guerre entraînèrent les femmes à s'intéresser aux affaires publiques. Elles formèrent des groupes patriotiques, menèrent des actions anti-britanniques et écrivirent des articles sur l'indépendance. Elles participèrent activement aux campagnes contre le Tea Act. Fondant les Filles de la Liberté, elles boycottèrent les produits anglais et encouragèrent les femmes à fabriquer leurs propres vêtements et à n'acheter que des produits fabriqués en Amérique. En 1777, il y eut même une contrepartie féminine à la Tea Party de Boston, une Coffee Party, que relate Abigail Adams dans une lettre adressée à son mari, John Adams. Certaines historiennes ont récemment fait remarquer que la contribution des femmes des classes laborieuses à la Révolution américaine a toujours été très largement passée sous silence, contrairement aux faits et gestes de si charmantes compagnes des chefs révolutionnaires, Dolly Madison, Martha Washington, Abigail Adams. En revanche,
et la rançon de Pénélope.
Margaret Corbin, surnommée Satané Kate, Deborah Sampson Garnett et Molly Pitcher étaient, elles, de rudes représentantes des classes laborieuses, élevées au rang de femmes du monde par les historiens. Les femmes des classes les plus pauvres qui, dans les dernières années de la guerre, rejoignirent les campements de l'armée révolutionnaire pour apporter leur soutien et même combattre, furent considérées plus tard comme des prostituées, alors que Martha Washington occupe une place de choix dans les manuels d'histoire pour avoir rendu visite à son mari au campement de Valley Forge. Lorsque l'opinion des femmes est évoquée, c'est presque toujours exclusivement au travers des écrits des plus privilégiées d'entre elles, que leur statut autorisait à s'exprimer librement et qui avaient l'opportunité de voir leurs écrits circuler. Abigail Adams, avant même la déclaration d'indépendance en mars 1776, écrivait à son mari « Dans le nouvel ensemble de lois qu'il vous sera nécessaire d'édicter, je souhaite que vous n'oubliez pas les femmes et que vous soyez plus généreux envers elles que ne l'ont été vos ancêtres. Ne confiez pas un pouvoir illimité au mari. Souvenez-vous que tous les hommes seraient des tyrans s'ils en avaient le pouvoir. Si un intérêt tout particulier n'est pas accordé aux dames, nous sommes déterminés à fomenter une rébellion et nous ne nous sentirons pas tenus d'obéir à des lois qui ne représenteraient pas nos intérêts. » Quoi qu'il en soit, Jefferson prononça, en marge de sa déclaration selon laquelle tous les hommes naissent égaux, ce jugement sur les femmes américaines. Elles sont trop sages pour laisser la politique plisser leur joli front. Enfin, après la Révolution, aucune des nouvelles constitutions d'État n'accorda le droit de vote aux femmes, excepté dans le New Jersey, qui abrogea finalement cette décision en 1807. Quant à la constitution de New York, elle rejetait clairement sa population féminine en utilisant explicitement le qualificatif de masculin. Aux alentours de 1750, alors que près de 90% de la population blanche masculine était alphabétisée, 40% seulement des femmes savaient lire et écrire. Les femmes des classes laborieuses avaient peu de moyens de s'exprimer et encore moins de transmettre par écrit les sentiments de révolte qu'elles pouvaient éprouver devant cette suggestion. Non seulement elles s'occupaient de leurs nombreux enfants, mais elles travaillaient le plus souvent à domicile. À l'époque de la déclaration d'indépendance, 4000 femmes et enfants de Philadelphie filaient en sous-traitance à domicile pour le compte de manufactures locales. Les femmes étaient aussi commerçantes ou aubergistes et impliquées dans toutes sortes de négoces. Elles étaient également boulangères, ferblantières, brasseuses, tanneuses, cordières, bûcheronnes, imprimeuses, croque-morts, menuisières, saisonnières, etc. Pendant et après la Révolution, l'idée de l'égalité des femmes avait été assez largement discutée. Tom Paine se déclarait pour l'égalité des droits, et l'ouvrage pionnier de l'écrivain anglais Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, fut réimprimée aux États-Unis tout de suite après la guerre d'indépendance. Entre la Révolution et la guerre de sécession, tant de changements étaient intervenus dans la société américaine, croissance de la population, progression vers l'ouest, développement industriel, extension des droits politiques de la population blanche masculine, évolution du système éducatif afin de répondre aux besoins économiques, que la condition des femmes américaines ne pouvait rester inchangée. Avant l'industrialisation de l'Amérique, la nécessité pratique d'accueillir des femmes dans les communautés vivant sur la frontière avait fini par imposer la mise en place de mesures plus ou moins égalitaires. Les femmes pouvaient y occuper des postes importants, y diriger des journaux, des tanneries, être aubergistes ou ouvrières qualifiées. En outre, elles exerçaient un monopole dans certaines professions, celle de sage-femme en particulier. Nancy Cott évoque Martha Moore Ballard, fermière dans le Maine en 1795, qui pétrissait, brassait, saumurait les aliments, filait et cousait, fabriquait son propre savon et ses propres bougies, et, ayant fait office de sage-femme pendant 25 ans, avait accouché plus d'un millier de bébés. En outre, comme l'éducation était dispensée au sein de la famille, les femmes tenaient là un rôle tout particulier. Plusieurs dynamiques contraires étaient en jeu. En effet, si les femmes étaient désormais incitées à sortir de chez elles pour participer à l'industrialisation, la société exerçait néanmoins une certaine pression afin de les maintenir dans un cadre permettant d'en garder le contrôle. Le monde extérieur faisait irruption au sein du foyer et provoquait crainte et tension dans une société dominée par les hommes. Un contrôle idéologique devait donc venir se substituer à un contrôle domestique de moins en moins opérant. La notion de place des femmes, promue par les hommes, était en fait intériorisée par de nombreuses femmes. À mesure que l'économie se développait, les hommes s'imposèrent dans les emplois d'ouvriers artisans et de négociants. L'agressivité s'affirma comme un trait spécifiquement masculin. Les femmes, en revanche, précisément parce que nombre d'entre elles commençaient à investir le dangereux monde extérieur, étaient censées être passives. Dans les milieux aisés et la petite bourgeoisie d'abord, puis, comme toujours, dans les classes défavorisées, les modes vestimentaires évoluaient, elles aussi. Et le poids des vêtements féminins, les corsets et jupons d'hiver, signalaient clairement l'exclusion des femmes du monde actif. L'église, l'école et la famille furent chargées de véhiculer un certain nombre d'idées concernant la place des femmes, au moment même où la dite place devenait de plus en plus floue. Barbara Walter, dans « Dimity Convictions », a su montrer combien avait été puissant, dans les années 1820, le culte de la vraie féminité. Les femmes se devaient d'être pieuses. La pureté sexuelle était la vertu spécifique des femmes. S'il était compréhensible que les hommes, du fait de leur constitution biologique, puissent pécher, la femme, elle, ne devait jamais prendre les armes. Le dressage commençait très tôt. Dès l'adolescence, l'obéissance préparait la jeune fille à se soumettre au premier compagnon qui lui serait destiné. Selon Barbara Walter, le raisonnement s'appuie sur deux mouvements simultanés. La femme américaine était censée être si parfaitement aimable et séduisante qu'un homme digne de ce nom, mis en sa présence, pourrait difficilement garder son sang-froid. En outre, cette même jeune fille, sur le point de s'extraire du cocon protecteur de la famille, est si possédée d'une affection pour l'heure sans objet défini, et si habitée de tendres sentiments, qu'elle aimera la première personne qu'elle rencontrera. Tandis qu'elle sort à peine du véritable songe d'une nuit d'été qu'a été son adolescence, il est du devoir de sa famille et de la société de tout faire pour que son premier regard tombe sur un parti convenable et non sur un quelconque clown écervelé. Cette tâche est menée à bien par l'application de mesures restrictives telles que le choix d'école, de cours de danse, de voyage ou tout autre mode de contrôle extérieur. On exige de la fille qu'elle obéisse d'elle-même. Cette combinaison produit un genre de ceinture de chasteté sociale, dont la jeune fille ne se libère que lorsque le partenaire conjugal adéquat paraît et que l'adolescence est officiellement achevée. On peut lire dans le Young Lady's Book de 1830 que, quelle que soit la situation dans laquelle une femme peut se trouver entre le berceau et la tombe, elle doit faire montre d'obéissance et de soumission, ainsi que d'un tempérament conciliant et d'un esprit humble. Une femme écrivit en 1850 dans un ouvrage intitulé Greenwood Leaves, « La véritable nature féminine est toujours d'être timide, hésitante et étroitement dépendante comme dans une perpétuelle enfance. » Un autre livre, « Recollection of a Southern Matron », raconte « Si une des attitudes de mon mari me chagrinait, je lui en parlais une ou deux fois, calmement, et finalement la supportais patiemment. En proposant aux femmes des règles pour le bonheur conjugal et domestique, un autre livre se concluait sur le conseil suivant. N'en espérez pas trop. Dans The Bonds of Womanhood, Nancy Cott nous rappelle que dans les années 1820 et 1830, on avait pu assister à une recrudescence des romans, poèmes, essais, sermons et manuels sur la famille, les enfants et le rôle des femmes. Le monde extérieur devenait plus dur, plus compétitif et plus exigeant. En un certain sens, le foyer cristallisait une certaine nostalgie d'un passé fantasmé, un refuge contre la réalité immédiate. Considérer l'économie nouvelle comme un aspect de la vie parmi d'autres, avec toujours le cercle familial comme refuge, permit peut-être de mieux l'accepter. En 1819, une femme pieuse écrivait « L'atmosphère du monde est empoisonnée. Il vous faut porter avec vous un antidote ou l'infection s'avérera fatale. » Tout cela, selon Nancy Cott, n'avait pas pour but de s'opposer au monde de commerce, de l'industrie, de la compétition et du capitalisme, mais de les rendre plus acceptables. Le culte de la fonction domestique des femmes visait à leur faire accepter le principe du séparé mais égal, en conférant à leur travail une importance égale à celui des hommes, mais séparé et différent. Cette égalité présentait néanmoins une spécificité intrinsèque. les femmes ne choisissaient pas leurs compagnons et, après leur mariage, leur vie était toute tracée. Le mariage enchaînait, les enfants venaient ajouter au fer. Un rôle important était confié aux femmes, inculquer à leurs enfants les valeurs morales de l'empire sur soi et de l'avancement par l'excellence individuelle plutôt que par l'action collective. La nouvelle idéologie produisit ses fruits et permit de garantir la stabilité requise par une économie en pleine croissance. Mais l'existence de cette idéologie prouve également que d'autres forces, difficilement contenues, étaient à l'œuvre. En outre, cantonner les femmes dans leur propre sphère impliquait le risque qu'elles profitent de ce temps et de cet espace pour travailler à l'émergence d'un autre genre de vie. Pères fondateurs étaient-ils ces hommes justes et sages, cherchant à garantir un juste équilibre? En fait, ils se souciaient peu d'équilibre, à l'exception peut-être de celui qui permettrait de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire un équilibre entre les forces dominantes de l'époque. Ils ne souhaitaient certainement pas rééquilibrer les rapports entre maîtres et esclaves, entre possédants et démunis, entre indiens et blancs. La moitié de la population américaine, d'ailleurs, n'était même pas considérée par les pères fondateurs comme participant aux forces concurrentes de la société, selon Bailey. On n'en faisait mention nulle part dans la déclaration d'indépendance. Elle était également absente de la Constitution et demeurait parfaitement invisible dans la nouvelle démocratie politique. Ces absents par excellence, ce sont les femmes de la jeune Amérique.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.